à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est 9h30, tout de suite les titres avec Emma.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, voici les titres d'aujourd'hui. Les États-Unis prennent une décision forte en autorisant l'Ukraine à utiliser les missiles longue portée contre la Russie. COP29, le climatologue Sébastien Dentreloup nous dressera le bilan de cette première semaine. La quinzaine du climat organisée vendredi, une soirée jeu de société sur le thème de la durabilité, reportage dans ce journal. Et pour finir, une mise en lumière sur la place des femmes dans le domaine de l'astronomie. La Corée du Nord s'invite au sein du conflit russo-ukrainien et les États-Unis autorisent enfin l'Ukraine à répondre en conséquence. Cela fait déjà plusieurs mois que Kiev réclame l'autorisation d'utiliser les missiles longue portée fournis par les Américains. Joe Biden a finalement donné son accord au président Zelensky. Les États-Unis hésitaient jusque-là à donner leur feu vert par crainte d'une escalade avec Moscou. Mais Poutine, en accueillant quelques 10 000 soldats nord-coréens dans ses rangs, a franchi la première marche. C'est en tout cas ce que semble penser Joe Biden. Ce changement stratégique majeur interroge. Certains y voient une tentative de sabotage de l'investiture du nouveau président Trump, tandis que d'autres y voient un message fort où l'Amérique se déciderait enfin à parler le seul langage que Vladimir Poutine comprend. La première semaine de la COP29 a pris fin ce samedi. Pour rappel, la COP est le plus grand sommet climatique mondial. Le monde se réunit pour convenir des mesures à prendre pour faire face à la crise climatique, comme limiter l'augmentation de la température globale à 1,5 degré. Cette 29e édition se tient à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, et elle porte tout particulièrement sur l'aide financière apportée aux pays en voie de développement dans leur lutte contre les changements climatiques. Morgane, bonjour.
Bonjour.
Que faut-il retenir de cette première semaine ?
1300 milliards annuels, c'est la somme que réclament les pays en voie de développement à l'aide contre la lutte contre le changement climatique. Les pays participants à la COP doivent encore s'accorder sur cette somme et sur leurs sources de financement, qui peuvent notamment prendre la forme de dons privés. Mais pour l'instant, l'élément essentiel à retenir concerne surtout les émissions de carbone. Sébastien Dentreloup, climatologue à l'Université de Liège.
C'est des discussions qui sont en cours, effectivement, ils comptent cette semaine-ci, en tout cas négocier pour que cette taxe carbone puisse voir le jour et puisse plus s'étendre à d'autres secteurs que ce qu'elle ne concerne actuellement. Oui.
Les États-Unis ont pris part aux négociations, mais leur situation reste incertaine après l'élection de Donald Trump. Lors de son dernier mandat, il s'était retiré des accords de Paris, qui visent à maintenir le réchauffement climatique au-dessus de 2 degrés sur le long terme, mais 1,5 au mieux, à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la résilience des pays face au changement climatique. S'il venait à se retirer à nouveau des accords de Paris, cela aurait peut-être un impact à l'échelle internationale.
Déjà, c'est une très mauvaise nouvelle, simplement dans le fait qu'il se retire, parce que ça va pouvoir peut-être influencer des pays à se retirer également. C'est vrai que pour lutter contre la limitation du réchauffement climatique, c'est plus compliqué quand une des premières puissances mondiales se retire. Mais je pense qu'on a tout à jouer, nous, en tant que pays, à jouer sur justement l'adaptation à vivre dans un climat plus chaud, parce que ça nous concerne directement. Et puis maintenant, il ne faut pas non plus se leurrer. Les accords de Paris, ils ne sont pas contraignants. Et pour le moment, il y a quand même très peu de pays qui se conforment à ces accords-là, en ce compris la Belgique.
Des ministres du monde entier ont fait le déplacement jusqu'à Bakou ce lundi. Les dernières négociations se jouent jusqu'au vendredi 22, dernier jour de la conférence. On fait le point avec Sébastien Dentreloup sur les points clés de cette semaine.
Cette semaine-ci, c'est justement la semaine la plus... chargé, je vais dire, parce que c'est vraiment toutes les négociations. Les négociations pour savoir comment adapter les pays à une certaine forme de transition. Et surtout aussi, ils vont négocier beaucoup la finançabilité des pays émergents, quoi, donc les plus vulnérables en tout cas. Comment eux vont pouvoir lutter contre le réchauffement climatique et comment ils vont pouvoir s'adapter à un climat plus chaud notamment. Alors, où vont-ils puiser cet argent-là? C'est tout l'objectif de cette semaine-ci, c'est de pouvoir négocier, de savoir qui va donner quoi, comment est-ce qu'on va mettre en place des outils pour pouvoir financer. C'est vraiment ici, cette semaine, c'est vraiment la semaine clé.
Merci Morgane. Et si vous souhaitez aller plus loin, le professeur de l'UC Louvain, Jean-Pascal Vanipercel, qui est sur place, donnera demain une vidéoconférence pour expliquer les enjeux de la COP. Les infos sont à retrouver sur le site web du Green Office. On continue dans la thématique environnementale. Dans le cadre de la quinzaine du climat, le Green Office organisait ce vendredi une soirée jeu de société sur le thème du climat et de la durabilité. Un reportage de Célia Hélas.
Il faut commencer parce qu'en vrai, ça coûte 4 de faire mourir ces
enfants. Ouais, c'est vrai que ça coûte cher.
Les ménages s'agitent pour
trouver la meilleure stratégie. Et si ce n'est pas le plus riche ou le plus rapide qui gagne, mais celui qui comprend le mieux les enjeux de biodiversité ou de plantation d'arbres.
Donc on commence avec les graines. Après les graines, ça évolue en petits arbres. Les petits arbres en moyen. Et après, on a des grands arbres. Et plus l'arbre est grand, plus on a des points de photosynthèse. Sauf que les arbres, ils peuvent aussi se faire de l'ombre entre eux. Et donc, les arbres qui sont derrière un autre arbre, ils font pas de points de photosynthèse.
À une autre table, un participant chuchote une longue phrase compliquée à l'oreille d'un autre. Ils doivent réussir le défi du téléphone sans fil pour diminuer le réchauffement climatique. C'est sans compter les différents aléas qu'ils vont rencontrer.
Évidemment, on est en train de jouer, mais les enjeux sont beaucoup plus importants que ça. Mais n'empêche que ça nous rend conscience que toute action a une réaction. C'était ludique, mais en même temps, c'était très, très informatif.
Pour Mohamed, c'est un moment idéal pour échanger sans complexe sur ces questions.
C'est intéressant de voir ce que les gens pensent sur le tas, comme ça, sans arrière-pensée, de voir vraiment comment ils pensent l'écologie.
La partie est terminée, il n'y a plus qu'à compter les points.
Au niveau des libellules, une libellule qui est près d'un ruisseau de 1 de taille, ça veut dire que la libellule a un point.
À Liège, Willy de Meyer a annoncé dimanche sur le plateau de RTL qu'il passerait le flambeau à la socialiste Christy Mauréal en cours de législature. Pour le bourgmestre actuel, la chef de groupe PS au Parlement wallon est en position politique de lui succéder. Reste à savoir quand aura lieu la passation de pouvoir. Willy de Meyer veut d'abord clôturer certains dossiers que le Covid ne lui a pas permis de terminer. Deux options sont donc sur la table, une arrivée à mi-mandat ou avant les élections de 2030, le temps pour Christy Mauréal de bien connaître les dossiers. Toujours à Liège, le parquet et la zone de police de Liège ont lancé un plan d'action pour lutter contre la problématique des stupéfiants dans le centre-ville. Ce nouveau plan a pour but de coordonner des opérations d'envergure, destinées à identifier et appréhender d'éventuels dealers ainsi que des consommateurs. Il vise également à maintenir une vigilance constante sur cette situation préoccupante. Une première opération a déjà permis l'interpellation de 4 personnes, suspectées de deals et de 6 consommateurs. Au total, 60 grammes de cannabis, 4 téléphones et près de 400 euros ont été saisis. Plusieurs opérations similaires sont prévues dans les jours et les semaines à venir. Dans l'actualité nationale maintenant, les négociations pour former un nouveau gouvernement fédéral continuent. Depuis que les socialistes flamands de Voreuth ont décidé vendredi dernier de revenir à la table des négociations, le train de l'Arizona semble à nouveau sur les rails. Reste à savoir s'il peut arriver à destination avec à la clé un accord de coalition. Pour l'instant, le formateur Bart De Wever souhaite négocier 6 jours sur 7. Le président de la NVA a reconnu qu'il serait compliqué de former un gouvernement avant le 1er décembre et d'obtenir un budget à présenter au Parlement dans la foulée. Le formateur est à nouveau attendu au palais le 25 novembre prochain pour faire rapport au roi de l'avancement de sa mission. Et on s'intéresse maintenant à ce qu'il se passe dans les étoiles, Morgane.
Oui, saviez-vous qui détient le record de découverte de comètes et d'astéroïdes, ou qui a révélé l'organisation complexe des populations stellaires, ou encore qui a percé les secrets des forges stellaires, bouleversant ainsi notre vision de l'univers? La réponse à toutes ces questions, une femme. Pourtant, Emma Puma, les contributions féminines en astronomie ont souvent été invisibilisées.
Quand on doit citer un astronome historique au hasard, on pense le plus souvent à des hommes. Galilée, Copernic, ou plus près de nous par exemple, comme Hubble. Yael Nazé, astrophysicienne FNRS à l'Université de Liège.
C'est compliqué, on connaît assez peu finalement les femmes qui ont fait de l'astronomie, je dirais même les femmes savantes en général, hein, quand on doit citer à part Marie Curie.
Cette moindre contribution s'explique d'abord par l'accès limité aux connaissances en astronomie, un domaine qui a longtemps été peu enseigné aux femmes. Mais le défi majeur reste de faire reconnaître son travail à sa juste valeur.
Celles qui travaillent, bah, souvent vont être un petit peu... mise sur le côté, ou on va considérer qu'elles sont là un peu comme un esclave dans le coin et que c'est normal de profiter de leur travail.
Braille, par exemple. Le fameux astronome danois qui fit construire l'observatoire d'Uraniborg avait une sœur, Sophie. C'est avec elle qu'il élabora divers catalogues de positions planétaires qui permettront plus tard à Kepler de découvrir les lois relatives au mouvement des planètes autour du Soleil. Mais la chercheuse pointe aussi des cas plus malheureux.
Jocelyn Bell, qui n'a pas reçu le Nobel pour sa découverte, c'est son patron qui l'a eu, alors que le patron était un peu, on va dire, le bâton dans les roues pendant toute sa recherche.
Recherches qui ont pourtant mené à la découverte des pulsars.
Des objets compacts, extrêmement particuliers, qui sont de merveilleux tests tant pour la physique quantique que pour la relativité générale et qui sont des objets extrêmement scrutés à l'heure actuelle.
La féminisation de la communauté astronomique s'éternise. En Belgique, seuls 17% des astronomes professionnels sont des femmes. Hier, les Diables se sont inclinés 1-0 face à Israël dans le dernier match de la phase de groupe de la Ligue des Nations. Les supporters parlent de la défaite de trop et Dominique Tedesco est une nouvelle fois sommé de rendre fonction sans délai. Ce dernier pense pourtant rester à la tête des Diables Rouges encore longtemps. L'équipe belge se place 3e au sein du groupe A, direction les barrages, en mars 2025. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Belle journée à tous sur 48FM.